Bonjour à tous. Bienvenue dans la sixième partie de notre émission consacrée à la naissance de l'idéologie du pouvoir, en compagnie de Michel Bompard-Porte.
Mon corpus en matière de mythologie consiste d'abord dans le bouquin de Bottero et Kramer qui s'appelle « Lorsque les dieux faisaient l'homme », qui traduit toute une série de textes, les textes les plus consistants, longs, etc., débutant avec le poème d'Atrasis, c'est-à-dire le premier récit très étendu du déluge.
Atrasis, personnage de la mythologie mésopotamienne, qui aurait survécu au déluge et obtenu des dieux l'immortalité. Sa légende est contée dans l'épopée d'Atrasis, dite aussi « Poème du super-sage ». L'histoire de Noé, le personnage de la Genèse, est directement inspirée de celle d'Atrasis. Mais avant d'évoquer le déluge, revenons un peu en arrière avec Michel Bompard-Porte, de façon à se remémorer les épisodes précédents. Nous sommes au cœur du croissant fertile, la Mésopotamie, au Néolithique.
On part de situations qui sont reconnues par absolument tout le monde comme extrêmement égalitaires, que ce soit au nord avec la culture de Halaf, que ce soit au sud avec les cultures d'Obeï. Les plus vieilles traces de quelque chose qui ressemble à une toute petite ville en Eridu sont datées de vers 6000 et des poussières, hein, donc c'est très très ancien. Bon, je vous rappelle que dans ces époques vers 6000, le territoire de ce qui va devenir la Mésopotamie comporte le fait qu'il n'y ait pas de golfe persique, parce que les terres vont jusqu'à ce qui est maintenant l'océan Indien. Et puis on a cette remontée des eaux formidable, des eaux salées, au cours de 6000 à 3000 et des poussières. Hein. On a cette remontée fabuleuse des eaux qui transforme le territoire à quelque chose de encore plus restreint que la carte de géographie actuelle, puisque les villes principales de Sumer qui vont s'établir vont être quasi au bord de la mer, qu'elles sont grosso modo à l'heure actuelle à 100 km de la côte de la Mésopotamie actuelle. Bon, donc juste, on a ces espaces très démocratiques, petits villages dont on a quand même quelques traces. Et puis, remontée des eaux, on voit apparaître des constructions qui diffèrent des constructions antérieures avec le coup des terrasses. Le coup des terrasses n'est pas interprété par les archéologues, et moi, je l'interprète comme ces gens ont essayé de se protéger des inondations. Ceux du sud, mettons, remontant, les émigrés du sud remontant, expliquant que, voilà, on va disparaître, inventant cette nouvelle architecture. Il semble que cette nouvelle architecture, quoique les archéologues disent qu'elle devient monumentale, alors qu'ils avaient déjà vu des grands bâtiments pratiquement analogues auparavant, mais ils n'anticipaient pas la future culture urbaine. Donc cette architecture qui est relativement monumentale m'apparaît à moi comme des lieux de sauvegarde que les gens utilisent ou prévoient d'utiliser en cas d'inondation. Bon, néanmoins, ce système-là que je décris, on le voit bien jusque vers 4000, pas tout à fait 4000. Et puis on a une période où on a une sorte de quasi-disparition presque de toutes les traces, de 4000 à 3000, 3003, 3004, on voit presque plus rien. Et donc on a l'impression que la catastrophe de montée des eaux a été particulièrement virulente à ce moment-là. Parce que voilà, les archéologues, ils tombent sur... Alors c'est double, hein, parce que j'ai parlé de la remontée des eaux, puis de l'autre côté, il y a la descente des fleuves avec les catastrophes qui sont dues aux fleuves. Donc on est dans un moment absolument catastrophique. Enfin, c'est idiot de dire ça comme ça, où les catastrophes doivent avoir lieu très souvent, parce qu'on a une remontée des eaux qui est très spectaculaire, et parce qu'on a deux fleuves qui sont spectaculairement capables de crues très destructrices. Et donc, on a ce truc qui est relativement opaque, précisément parce que tout ce qu'on peut conclure, c'est la pénurie de traces et les monceaux à certains endroits d'accumulation de limon entre des espaces qui sont habités laisse à penser que ces gens ont subi des énormes catastrophes. Bon. Et de ces énormes catastrophes surgit, d'une certaine manière, la civilisation urbaine sumérienne. Et donc, en tout cas, il y a une corrélation temporelle. Période de grande catastrophe, apparition d'une culture urbaine. Alors, maintenant, la corrélation temporelle n'est pas nécessairement causale, n'empêche que J'aurais tendance à penser, je l'avais expliqué l'autre fois, je vais simplement le rappeler là maintenant, qu'on peut penser que des systèmes de catastrophes peuvent donner lieu, vous vous rappelez, on avait raconté ça, à fabrication d'un groupe, on va dire, de pompiers, et que ces pompiers sauveurs puissent, d'une certaine manière, devenir un groupe un peu dominant et éventuellement pousser à une transformation de la société dans laquelle il y a de la hiérarchie, il y a de la prise de pouvoir. On avait dit, vers Obeid 5, quand on commence à revoir les gens, on a ces petites statuettes très, très régressives, on a la standardisation, bref, on a l'impression qu'on a une culture qui, quand même, va vers plus de même et moins d'acceptation de différence, ce qui toujours nous invite à penser qu'il y en a qui sont en train de prendre le pouvoir ou un peu de pouvoir. Donc j'ai une tendance à faire une certaine corrélation entre les catastrophes réelles et l'apparition des cités, avec quand même une certaine hiérarchie, même si j'ai soutenu qu'au début, et je suis persuadée que c'est exact, la hiérarchie est quand même faible. Elle est faible, mais quand même on a les grandes tombes, les tombes royales d'Ur, qui sont des trucs absolument merveilleux, avec des sculptures d'or, de lapis-lazuli, etc. Bon, je veux dire, ça veut dire qu'il y avait tout de même une élite qui avait passablement concentré le pouvoir et la richesse, même si elle n'était pas, disons, totalitaire, même si on avait un régime qui était relativement mixte. C'était juste ça sur quoi je voulais revenir, c'est-à-dire ce rapport de corrélation au sens de la réalité entre quelque chose qui est de l'ordre d'un système catastrophique et quelque chose qui est de l'ordre d'apparition des cités. Si vous voulez, ma question essentielle, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de déluge ? Ce que je vous raconte, c'est de la reconstruction faite par des climatologues. Alors, le problème avec les archéologues est que, je l'ai écrit noir sur blanc dans le bouquin, j'ai cherché dans leurs textes, un, la remontée des eaux, deux, les inondations catastrophiques du Tigre et de l'Euphrate. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient dans le rapport avec ce qu'ils racontaient de l'évolution de ce pays ? Je n'ai pas trouvé une hypothèse qui corrèle, tant soit peu, le système hydrologique, on va dire, et le système de la civilisation, pour ma stupéfaction. C'est-à-dire que, quand je vous ai dit tout à l'heure, les gens, ils montent des terrasses, évidemment, c'est pour se protéger des inondations, ça me paraît rudimentaire. Je n'ai pas trouvé cet énoncé dans un seul texte. Je les ai tous entendu dire qu'on faisait du monumental, parce qu'il y avait des terrasses. Bon, je veux bien, enfin, on pourrait peut-être imaginer quand même que ces gens ne sont simplement pas idiots, et qu'ayant été prévenus de la manière dont les eaux se déplacent de manière si violente là où ils habitent, eh ben, ils se montent, comme on faisait après au Moyen-Âge, ici, il y avait les châteaux forts, en cas de radia, pof, tout le monde allait au château fort, et ben là, on peut imaginer que les gens y vivent partout, pof, ils ont une maison en commune, et quand ils se mettent à faire une inondation, tac, ils montent de 2 mètres, leur terrasse, elle est à 2 mètres au-dessus du niveau standard, et ils ont leur maison encore au-dessus, et là, avec un peu de peau, ils peuvent tenir en attendant que les eaux baissent, vous voyez. Et cette hypothèse-là, toute simple, quand même, me semble-t-il, je ne l'ai trouvée nulle part, ce qui m'a laissé un peu baba. D'un certain sens, c'est comme si, du côté des archéologues, on faisait comme si ça n'existe pas. Donc, vas-y. Et aussi, on ne fait rien entre cette corrélation tout de même un peu sidérante. C'est au moment où les grandes catastrophes, en tout cas de l'eau salée, s'arrêtent, que les cultures urbaines arrivent. Moi, je dis, je ne peux pas faire autre chose que de dire... Je suis bien obligé de constater la série temporelle. Je ne sais pas faire la causalité, mais enfin, je ne vais pas faire comme si ça n'existait pas. Les archéologues ont tendance à faire comme si ça n'existe pas. C'est une unanimité de silence. Bon, si, je sais bien, c'est qu'il y a une sorte de... Comme on ne peut pas faire de démonstration, on va dire ceci implique cela, on ne peut pas faire ça, d'accord ? Donc du coup, ils se retirent sur une position dans laquelle ils seront certes parfaitement défendus, carrément, ils ne font pas de corrélation du tout. Eh bien, quand même, quand on va se retrouver avec... Le mythe du déluge qui va fonctionner dans la culture, je pense que là, pour le coup, on est sûr d'avoir une corrélation entre les séries des inondations majeures et l'apparition de ce mythe et l'usage qui en est fait. Le texte dont on va parler là, c'est un texte qui est rédigé d'après Bottero et Kramer vers 1700. Et en fait, on a des traces des vocations, mais très parcellaires, du déluge, notamment avant, dans un des poèmes de Gilgamesh, qui sont relativement très antérieurs. Donc, ça fait au moins 300-500 ans que le mythe du déluge a été plus ou moins construit. Néanmoins, ce qu'on a pour le moment récupéré, c'est, en l'occurrence, c'est des fragments de récits. Et par contre, le poème d'Atrahasis, ou super sage, c'est ça que ça veut dire, Atrahasis. Et c'est, en fait, c'est Noé. Hein. Enfin, ce sera Noé, plus exactement. Donc ce texte-là de 1700 est un texte très complet, très long, et qui permet d'être une étude relativement fine. Hein. C'est ça la différence. Et alors, ce que je tiens absolument à dire, parce que je pense que c'est fondamental, c'est que ce texte est écrit quelques 30-40 ans après que la plupart des villes sumériennes ont été détruites par des inondations catastrophiques. Et les populations donc, du sud, on est sous Amourabit là, ont émigré à Babylone ou dans la région. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de quitter leur ville pour des raisons d'inondation, là on est sûr. Ils sont remontés et c'est à ce moment que le récit du déluge apparaît. Et là, je dois dire que pour ce qui me concerne, je ne peux pas ne pas penser que de fait, on a une vraie élaboration de catastrophes, les anciennes et les nouvelles, dans la création de ce poème, qui va nous raconter une version tout à fait étonnante des inondations que les gens ont subies. Je ne sais pas si elle réveille un trauma enfoui. Je dis que j'ai une succession quand même spectaculaire. Ce qu'on a raconté de l'apparition des villes suite à, disons, un millénaire à peu près, pendant lequel les gens ont dû faire face à une situation très critique, très constante, hein, la montée des eaux et voilà. Donc, ces gens s'organisent, ils subissent évidemment, ils ont subi d'autres inondations catastrophiques du fait du Tigre et de l'Euphrate avant 1700, depuis 3000. Néanmoins, ils n'avaient pas dû quitter complètement les villes n'avaient pas été complètement détruites, comme ça a lieu à ce moment-là, vers les années 1730-1740. Donc là, les villes sont abandonnées à ce moment, et les gens ont été obligés de fuir, tout a été détruit. Et je pense que, en effet, là, on peut considérer qu'on a un effet d'écho, et que ce qu'on va entendre raconter du déluge est quelque chose qui élabore sur très longtemps. D'autant que, j'ai bien dit, le mythe du déluge, ça fait un bout de temps qu'il existe parmi la culture suméro-acadienne, même si on ne sait pas exactement comment il était construit dans les époques anciennes. En particulier, s'il était, comme ça va être le cas dans ce poème, de manière complètement spectaculaire, si c'était l'initiative d'un dieu de créer le déluge. Ça, on ne sait pas. Hein. Peut-être que les gens avaient une toute autre position, comme on verra peut-être en disant un mot des lamentations plus loin. Un autre texte qui date de 2000, donc aussi antérieur au poème du super sage. Quelques mots des dieux majeurs qui vont apparaître là dans cette histoire, à savoir An, Enlil, Enki. Et puis, il y a une grande déesse. Enfin, il y en a deux. Il y a une déesse de l'amour sumérienne et une déesse de la guerre sémitique qui sont surdéterminées et qui en font une, qui va devenir de plus en plus guerrière au fur et à mesure que le temps passe et que la situation symbolique se dégrade. Mais ça, c'est une déesse qui n'est pas du tout la grande déesse des origines, celle dont on parle depuis la création du néolithique, et qui n'arrête pas d'exister sous des formes diverses jusqu'à ce qu'elle se fasse assassiner par Marduk. Mais on n'en est pas encore là. Donc avec ces dieux que j'ai dit, là, An, Enlil, Enki et la déesse mère, on est très très tard parce que, je ne sais plus si on l'avait dit l'autre fois, Enlil, c'est un dieu qui est relativement tardif dans la version souverain, puisque là, il a une fonction de souverain un peu. Hein. C'est lui qui représente la souveraineté dans la triade. An, c'est une sorte de grand-père très peu présent. C'est le dieu dont on pense qu'il procède de tribus nomades. Et son nom, An, ça veut dire la divinité. Donc, c'est un dieu qui a très peu de temples, qui a très peu de présence. Il est toujours là, mais jamais comme héros principal dans la mythologie. Enki, c'est un peu ma proposition. Hein. C'est le dieu sumérien par excellence, le dieu de l'intelligence. Et j'avais, je ne sais plus si je l'avais expliqué l'autre fois, le dieu dont le temple est fait en roseau. Ce qui est complètement génial si on pense que c'est le dieu aussi de Apsu, c'est-à-dire de l'eau douce. Bon. Un dieu de l'eau douce, c'est forcément un dieu du sud, parce qu'au nord, l'eau douce, c'est le Tigre et l'Euphrate, c'est plutôt très destructeur. Alors que quand on est au sud, ce qui est destructeur, c'est l'eau salée, et par contre, l'eau douce, c'est ce qui aide à vivre. Et donc ce dieu qui est complètement bienveillant, créateur, inventeur de toutes sortes de choses, du pays, enfin on verra, il invente tout, il est malin comme tout, il est absolument bienveillant avec les humains. Et le miracle, c'est que son temple, c'est un temple de roseaux. Alors moi, quand je suis tombée là-dessus, j'étais complètement baba, parce que vous avez une technique de résistance aux inondations qui consiste à monter des terrasses, mais c'est quand même une technique qui est un peu bête, on va dire. Parce que si l'eau monte un peu trop, pof, on va se faire descendre. C'est une technique complètement rigide. Que si vous avez pensé, ah, on pourrait peut-être devenir semi-nomade, comme ça, si ça se met à inonder, flut, on pourra partir vite. Un temple de roseau, on voit bien, ça se démonte, ça se remonte, c'est pas difficile. Et donc, on a l'idée que ça, c'est des gens malins, quoi. Et les gens malins, c'est quand même ceux qui viennent du sud. Apparemment, c'est les Sumériens, c'est ceux du sud, quoi. Et en plus, Enki, c'est le dieu de Eridu, c'est la ville la plus au sud de toutes les villes. Et en plus, c'est la ville où il n'y a jamais de roi. Donc, c'est celle qui reste, semble-t-il, symboliquement la plus élaborée. Donc, voilà. Donc, on a notre triade. Alors, donc Enki, c'est un très, très vieux dieu. Am aussi, donc sumérien, probablement nomade pour Am. Et Enlil, c'est un truc assez spécial parce que ça démarre, c'est des vieux, vieux textes que cite Baudelaire et Cramer. Au début, Enlil, c'est un jeune dieu, un peu balourd, qui est dit Enlil, ça veut dire dieu du vent. Alors on dit que c'est le dieu du vent de printemps. Et donc le dieu du vent de printemps qui va amener des bonnes choses, ça risque d'être un dieu du nord, parce qu'au sud, au printemps, on a déjà fait. Le sud, ce n'est pas le même climat, donc les récoltes sont déjà faites. Donc un dieu du sud, un dieu du vent du printemps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est probablement un dieu qui vient plutôt des Sémites, et qui au début, une sorte de dieu pas très très important. Un dieu fils qui se fait virer de sa ville parce qu'il a fait des frasques à un moment dans un mythe, et dans un autre mythe il est absolument le petit garçon qui vient demander à Nisaba, la grande déesse de la sagesse, la main de sa fille, et qui obéit de point en point à ce que lui demande la déesse Nisaba de l'époque. Donc ça, on est dans des mythes anciens, et on a un Enlil qui est un dieu de peu d'importance, et apparemment Enlil est transformé en dieu de la souveraineté au moment du successeur de Sargon, c'est-à-dire c'est l'empire, le premier empire de l'humanité qui s'invente un dieu de la souveraineté. Et ce dieu de la souveraineté qui s'appelle Enlil va devenir le dieu de Nippur, une ville qui va être une des villes saintes de ce pays pendant des siècles, en remplacement d'un autre dieu qui s'appelait Ninurta. Et donc on a le sentiment que Enlil est une création relativement récente, absolument idéologique, d'une représentation d'une souveraineté parmi les dieux. Auparavant, il n'y a pas de souveraineté. Il y a des dieux polyades qui discutent entre eux, qui se chamaillent, qui baisent ensemble, qui banquettent ensemble, mais il n'y a pas de souverain nulle part. Ça se balade, ça discute. Et voilà, il faut qu'il y ait eu un empire réel, semble-t-il, dans le schéma historique, pour qu'apparaisse un dieu de la souveraineté. Et ce dieu de la souveraineté, c'est Enlil. Donc voilà, il est important quand même de pas se tromper sur qui fait quoi dans cette affaire et qui sont ces dieux qui vont être actifs dans le poème.
Une explication sur ces dieux polyades évoqués par Michel Bompard-Porte et qui vont être remplacés par ce nouveau panthéon, ces nouveaux dieux.
Ben, polis, c'est la cité, et donc les villes sumériennes, elles ont chacune leur dieu. Donc je l'ai dit, Enki, c'est le dieu de Eridu. C'est-à-dire, chaque ville a ses dieux polyades. Alors, pour comprendre pourquoi, c'est que les vieux sumériens sont des gens qui considèrent que presque toute entité a une divinité qui est, moi j'appelle ça sa dynamique interne, ça s'appelle les mé en sumérien, C'est-à-dire, je ne sais pas moi, l'océan à son mai, les nuages en leur mai, l'écriture à son mai, etc. Et je ne sais plus, Botero dit, il y en a des milliers comme ça de dieux. Ce n'est pas des dieux, c'est presque de la philosophie naturelle. Et c'est juste une philosophie naturelle dans laquelle on dit, chaque entité, elle a une façon à elle d'évoluer. Et c'est un peu le principe de l'évolution de chaque terme. Qui est une divinité. Et donc, évidemment, les cités aussi, elles ont chacune leur principe d'évolution, et le principe d'évolution d'une cité, ça va être son dieu. Vous voyez ? Donc, c'est ça qu'on appelle les dieux polyades.
Sargon, le monarque, unifia pour la première fois la Mésopotamie sous son autorité.
On a quand même l'impression qu'il faut très, 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 très longtemps avant que les mythes principaux représente les transformations historiques qui ont eu lieu. Je crois que dans le bouquin, je compare en disant on n'a jamais autant entendu parler de démocratie que depuis qu'elle n'existe plus, ou quasi plus parmi nous. Hein, on est en régime grosso modo oligarchique. Ben, on ne vous a jamais autant balancé de la démocratie tous les deux paroles quand on est politicien qu'à l'heure actuelle. Et on a un peu l'impression qu'il se passe des choses de cette nature, c'est-à-dire avant que l'idéologie doit y aller, suivre du côté du totalitarisme, ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, on a Sargon, 2350. L'apparition du dieu de type représentation de la souveraineté, Enlil, très peu après, dans la ville de Nippur. Mais à ce moment, c'est une souveraineté pour de rire, on va dire. Tous les autres dieux existent, continuent de se balader, etc. Et le premier moment où on voit quelque chose qui est de l'ordre d'une prise de pouvoir de type souveraineté, c'est 1700. Hein ? Il s'est quand même passé, si je ne me trompe pas, 600 ans. Hein ? C'est-à-dire, en cours de route et entre les deux, vous allez avoir des mythes du type Gilgamesh, où Gilgamesh est vitupéré dans le mythe, parce qu'il a voulu prendre trop de pouvoir. Et dans ces mythes de Gilgamesh, on est déjà post-Sargon, de certaine manière. C'est-à-dire que ce qu'on ressent à la lecture de toute cette mythologie, c'est qu'il y a des conflits de première grandeur entre, disons, les gens de pouvoir et d'autres. Et que, ben, il y a des négociations qui doivent être relativement rudes quant à savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pareil, on va avoir, quand on parlera après du mythe de Marduk, Marduk, c'est le dieu polyade de Babylone. Et les archéologues, au début, ont cru que ce mythe avait été rédigé sous Hammurabi, qui était le souverain de Babylone dans les années 1700 et des poussières, le grand empire. Et pas du tout, c'est beaucoup, beaucoup plus tardif. C'est-à-dire, c'est comme si on ne pouvait pas faire entrer l'idéologie de la souveraineté absolue avant longtemps. Par exemple, dans ce genre de mensonge, vous pouvez prendre Hitler. Pendant des temps et des temps, les discours de Hitler, c'est que des histoires de paix. Il faut attendre je ne sais pas quelle époque pour que Hitler ne dise pas purement et simplement « Moi, ce que je vous fais, c'est la paix. » Il faut arriver tard dans les guerres, en acte, pour qu'il bouge un peu son discours, qu'il ne dise plus qu'il est juste en train de sauvegarder la paix de l'Europe. Il y a cette espèce d'écart comme ça. Hein. Qui dit que les populations, on ne peut pas les asservir au niveau de la mythologie comme on les asservit en vrai. On dirait, il y a un écart. La langue, c'est une langue de scribes. Donc, c'est des gens qui sont profs du pouvoir et qui écrivent ce qu'on leur demande d'écrire, grosso modo. Enfin, hein, c'est l'équipe dirigeante, grosso modo, qui est capable d'écrire et qui écrit et qui rédige ces trucs. Donc, évidemment qu'ils osent aller jusqu'à un certain point en fonction de ce qui va être supportable, on peut dire. Donc ça donne un peu cette histoire-là. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a un écart quand même considérable entre les violences de la réalité et leur mise en forme au sens d'une idéologie totalitaire dans les mythes. Il y a vraiment une distance. Parce qu'en fait, c'est un truc complètement sidérant quand on lit la première fois ce mythe du déluge. Je crois que c'est le début du texte que je vais vous lire. Hein. Lorsque les dieux faisaient l'homme, ils étaient de corvée et besognaient. Considérable était leur besogne, leur corvée lourde, infinie leur labeur, car les grandes Anunnaku, aux Ijigu, imposaient une corvée septuple. Bon, c'est clair, on démarre sur il y a des dieux qui font bosser d'autres dieux pour eux. Et qu'est-ce que c'est la suite ? C'est que ceux qu'on a mis à bosser se mettent en grève. C'est-à-dire, il ne faut pas croire, il y a une sorte de réalisme de ces poèmes qui tient la route, et d'une manière incroyable. Et donc, arrêt de travail, harangue, manif, les Ijigou vont au palais de Enlil pour dire qu'ils veulent plus faire, ils veulent plus être de corvée, besogniers, etc. Et Enlil, qui va être montré dans tout le poème comme bête, méchant et peureux, vous voyez, on a un dieu souverain, mais le dieu souverain, il en prend quand même plein la figure, encore en 1700. On verra que c'est peut-être en profit de Marduk, qui est le dieu de Babylone en même temps, mais n'empêche, vous avez un dieu souverain qui est ridiculisé et qui demande tout de suite qu'on les tue tous. Ce qui, évidemment, est imbécile, puisque si on les tue tous, qui va faire les corvées? Mais donc, il est ridiculisé comme ça. Et alors, Han et Enki lui expliquent que c'est peut-être pas le plus intelligent, que peut-être on pourrait négocier, etc. Au moins qu'on tue le meneur, demande Enlil. Et de nouveau, négociation. Et puis finalement, Enki invente la solution. La solution, c'est d'inventer les hommes.
Ainsi s'achève notre 6e émission. Je vous donne rendez-vous pour la suite du poème d'Atrahasis dans notre 7e et dernière émission.